à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Éric Magnier-Akizan en direct de la capitale américaine. Lundi 11 février 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a pris la présidence tournante de l'Union africaine.
Au Tchad, plusieurs dizaines de combattants de l'Union des forces de la résistance sont faits prisonniers.
Campagne électorale au Sénégal, deux partisans du pouvoir tués dans l'est du pays, dans des échauffourées avec des membres de l'opposition.
En Syrie, le groupe État islamique mène une résistance acharnée face à l'offensive arabo-kurde dans sa dernière poche de Deir-ez-Zor.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal.
Fin hier du 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président rwandais Paul Kagame a passé le témoin à l'égyptien Abdel Fattah el-Sissi comme nouveau président en exercice de l'Union africaine. Les détails, Raïssa Girondin.
Pour son premier discours, l'égyptien Abdel Fattah el-Sissi a dévoilé les trois piliers de sa présidence. Développer les infrastructures, accélérer l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange et créer des emplois pour la jeunesse. Et pour rassurer ceux qui le soupçonnent d'être plus tourné vers le monde arabe, Abdel Fattah al-Sissi a insisté sur les liens entre la Méditerranée et le lac Victoria et s'est présenté comme l'héritier de Gamal Abdel Nasser qui, en 1963, avait dans la même ville d'Addis Abeba plaidé pour un grand marché unique africain. L'Égypte fera tous les efforts nécessaires pour la réforme structurelle et financière de l'UA, a-t-il souligné. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été désigné premier vice-président. Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui participe à son tout premier sommet de l'Union africaine, devient le deuxième vice-président. Amnesty International a exprimé ses craintes quant à l'impact de la présidence de M. Sissi sur les mécanismes d'évaluation des droits de l'homme en Afrique, accusant l'Égypte d'avoir mené des attaques régulières contre la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
Par ailleurs, l'opposant congolais Martin Fayulu et candidat malheureux de la dernière présidentielle a proposé de refaire les élections dans un délai de 6 mois dans une lettre aux dirigeants de l'Union africaine. Il plaide pour la création d'un comité spécial de l'Union africaine pour la vérification de la vérité des urnes en RDC. Monsieur Fayulu accuse la commission électorale d'avoir tout simplement fabriqué les résultats qui ont donné vainqueur Félix Tshisekedi.
De son côté, le président Félix Tshisekedi a rencontré aujourd'hui à Addis Abeba le président du Rwanda, Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont passé en revue les questions de bon voisinage et de franche coopération. Monsieur Tshisekedi a aussi rencontré la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Frederica Mogherini.
Toujours en RDC, la justice militaire a annoncé l'inculpation imminente d'un témoin clé dans le procès fleuve des assassins présumés de deux experts des Nations Unies en mars 2017 dans le Kasaï.
Le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine a déploré le terrorisme en progression dans le Sahel. Smaïl Cherghi a appelé à combiner la réponse militaire à une lutte contre ces causes profondes, notamment économiques et politiques.
Le Premier ministre français se rendra au Mali du 22 au 25 février. Édouard Philippe doit notamment évoquer le soutien de Paris à la stabilité du Mali et le renforcement du partenariat économique. Il rencontrera également les forces françaises engagées au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane.
Au Sénégal, deux militants du parti au pouvoir tués dans l'est du pays à la suite de heurts avec des membres de l'opposition. Le point avec Idriss Fall.
Il s'agit du premier mort depuis le début, le 3 février, de la campagne pour le scrutin présidentiel du 24 février. Il y a eu des échauffourées entre des militants du PUR, le parti de l'unité du rassemblement du candidat Issa Sall, et de la coalition présidentielle. Selon la police, une personne a été poignardée et son corps se trouve à l'hôpital de Tambacounda, à plus de 400 km à l'est de Dakar. Par ailleurs, au moins 2 personnes ont été blessées dimanche à Fatick, dans le centre, un fief du président Sall, à la suite d'échauffourées entre des partisans du pouvoir et ceux du candidat Ousmane Sonko, une figure montante de l'opposition. Des heurts entre militants du pouvoir et de l'opposition le 4 février ont également fait au moins 4 blessés graves parmi les militants de M. Sonko à Saint-Louis, dans le nord du pays. Depuis le début de la campagne, les appels au calme se multiplient dans ce pays où les campagnes électorales sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de désinformation, voire de violence. En 2012, au moins 10 personnes ont été tuées dans des violences préélectorales après la candidature de l'ancien président Abdoulaye Wade à un troisième mandat.
Le président sortant Macky Sall accuse l'opposition d'être responsable de l'escalade et précise que les auteurs répondront de leurs actes devant les tribunaux.
Au Cameroun, des hommes armés ont tué 4 personnes dans l'hôpital d'Okumba, ville de la région anglophone du sud-ouest camerounais. Les activistes séparatistes sont soupçonnés d'être derrière cette attaque aujourd'hui. Le 11 février 1961 a eu lieu le référendum qui a réuni francophones et anglophones et que Yaoundé a transformé en 1966 en une fête de la jeunesse.
Au Tchad, le groupe rebelle UFR estime avoir perdu une bataille, mais pas la guerre, visée par des frappes aériennes françaises début février dans le nord-est du pays. Plusieurs dizaines de ces combattants ont été capturés, Ekabadou.
Une bataille est perdue, mais pas la guerre, a déclaré Youssouf Hamid, porte-parole de l'Union des forces de la résistance. À la demande de N'Djamena, la France a annoncé avoir procédé à 3 reprises à des frappes sur une colonne de pick-up. On ne savait pas que la France interviendrait. Normalement, ils font du renseignement. Ça, on le sait. On ne s'attendait pas à des frappes, a expliqué M. Hamid. Selon lui, il n'y a pas eu un seul combat entre les combattants de l'UFR et l'armée tchadienne. C'est la France qui a combattu, pas les Tchadiens. Samedi, l'armée tchadienne a annoncé avoir capturé plus de 250 terroristes, dont 4 principaux chefs, saisi plus de 40 véhicules et plusieurs centaines d'armes. Le porte-parole de l'UFR a qualifié ce bilan de fantaisiste, disant qu'une trentaine de combattants se sont rendus à l'armée tchadienne après s'être réfugiés dans une grotte suite au bombardement français.
En Côte d'Ivoire, Amnesty International dresse un bilan sévère des atteintes à la liberté d'expression. L'ONG dénonce des arrestations et emprisonnements arbitraires, harcèlement contre l'opposition, la société civile et les médias critiques. Et recense des cas de torture infligés par la police secrète et la gendarmerie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, les combattants de la coalition internationale font face à une résistance acharnée de centaines de djihadistes du groupe État islamique, acculés dans leur dernier retranchement. Clairement à Jibourg.
C'est le troisième jour d'un assaut dit final lancé par les forces démocratiques syriennes contre le réduit djihadiste près du village de Bakouz dans la province orientale de Deir ez-Zor. Un missile a été tiré sur une position du groupe État islamique tandis qu'un avion de la coalition internationale emmené par Washington survole le secteur. La progression des FDS, cette coalition arabo-kurde, a été confirmée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Mustapha Bali, le porte-parole des FDS, a indiqué que Daesh a lancé une contre-attaque en riposte à des tirs de roquettes et des frappes aériennes. Samedi, les FDS ont lancé leur bataille finale contre les quelques 500 à 600 djihadistes restés dans ce secteur, selon cette alliance soutenue au sol et dans les airs par les forces de la coalition internationale. Depuis le lancement de leur offensive en septembre, les FDS ont subi plusieurs contre-attaques meurtrières des djihadistes.
Le chef du Pentagone par intérim, Patrick Shanahan, s'est rendu en Afghanistan. Il cherche à rassurer le gouvernement de Kaboul sur les négociations de paix avec les talibans. Les autorités afghanes sont tenues à l'écart de ces discussions que Washington mène depuis l'été.
Le Qatar et la France ont signé un accord de dialogue stratégique axé sur la sécurité régionale. Cette initiative devrait conduire à une coopération accrue dans les domaines de l'économie, de la culture, du sport et de la lutte antiterroriste. L'accord signé à Doha intervient au moment où cette riche monarchie du Golfe est isolée depuis la rupture avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte depuis 2017.
L'Iran fête les 40 ans de sa révolution. Ce jour férié commémore le renversement du régime du Shah, Mohammad Reza Pahlavi, le 11 février 1979, 10 jours après le retour d'exil de l'ayatollah Khomeini, père fondateur de la République islamique. L'événement est massivement célébré à travers le pays. Le président Hassan Rouhani a promis l'échec des plans démoniaques de ses ennemis et dénoncé notamment un complot des États-Unis, d'Israël et des États réactionnaires du Moyen-Orient contre son pays.
Le président américain est à El Paso, ville frontalière avec le Mexique. Donald Trump doit y défendre le mur qu'il réclame. Il demande 5 milliards de dollars pour la construction de cet édifice controversé.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Lamit Talani.
La centrale hydroélectrique de Rusumo en construction au Rwanda est achevée à 35%. L'infrastructure d'une capacité de 80 MW est censée desservir trois pays, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Selon Ecofin, elle devrait être achevée en 2020. Ce barrage fournira à chaque pays 26,6 MW d'électricité. Cela équivaut pour le Rwanda à 13% de sa puissance actuelle, une quantité qui lui permettra d'alimenter 467 000 ménages. Le Zimbabwe doit mobiliser 1,4 milliard de dollars pour répondre aux besoins alimentaires des plus vulnérables selon Bloomberg. Les ménages ruraux et urbains ont besoin d'un total de 1,22 million de tonnes de céréales sur une période de 13 mois. En outre, la part de la population qui fait face à l'insécurité alimentaire est de 52% dans la capitale Harare et de 33% à Bulawayo, alors qu'elle atteint 51% dans les zones rurales. Pour finir, le Kenya menace de suspendre les licences d'exploitation d'Athi River Mining et East African Portland Cement, deux importants producteurs de ciment cotés à la bourse de Nairobi, qui ont accumulé des arriérés de redevances vis-à-vis de l'État kényan. RM Cement devra débourser 96,5 millions de shillings kenyans. East Africa Portland Cement, qui est majoritairement contrôlé par des entités publiques, devra pour sa part débourser 68,3 millions de shillings kenyans.
Plein feu sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le sélectionneur des étalons juniors jette l'éponge.
Mon contrat prend fin à la fin de ce mois, je n'ai même pas besoin d'écrire. C'est déjà fait depuis longtemps, je m'en vais parce que le contrat finit. Je vous promets de ne plus me mêler de vos histoires de petites catégories. C'est en ces termes que Séraphin Dargani, sélectionneur des étalons des moins de 20 ans du Burkina Faso, a annoncé son départ de la tête de l'équipe à l'issue du dernier match de la CAN des moins de 20 ans, Niger 2019. Les étalons juniors ont été surclassés sur toute la compétition, encaissant 8 buts pour un seul de marqué. Lors de son dernier match, le Burkina Faso a pris un sévère 1-5 devant le Sénégal.
Ismaili réintégré en Ligue africaine des champions.
Oui, l'élimination du club égyptien de la compétition après des violences commises le mois dernier par ses supporters a été annulée en appel par le jury disciplinaire de la CAF. Le 18 janvier, au stade d'Ismaïlia, le match opposant l'équipe hôte Ismaili SC aux Tunisiens du club africain avait été interrompu après des jets de pierres et de bouteilles d'eau sur le terrain par les supporters égyptiens. Il n'y a pas eu d'envahissement du terrain et l'agression contre l'équipe adverse n'a pas été établie, a déclaré Nathalie Rab, directrice de la communication de la CAF. Elle a ajouté que ces deux conditions sont nécessaires pour déclarer l'équipe hôte perdante du match et éliminée de la compétition. Oui, le Paris Saint-Germain se déplace demain sur la pelouse de Manchester United à 20h temps universel en huitième de finale aller. Des trois vedettes de l'attaque parisienne, la fameuse MSN Mbappé, Cavani, Neymar. Il n'y aura que Kylian Mbappé à Old Trafford. Cavani et Neymar sont blessés et restent difficiles à remplacer, comme nous le fait savoir l'entraîneur allemand du PSG, Thomas Tuchel.
Si deux ou trois joueurs clés ne sont pas là, c'est notre responsabilité de trouver des solutions. C'est super difficile. Si on joue avec notre meilleure équipe, c'est un grand défi. Si on manque beaucoup de joueurs clés, c'est plus grand. Mais à mardi, on va être prêt.
À l'inverse, Manchester United s'est ressaisi depuis le limogeage de José Mourinho le 18 décembre et se porte mieux. Manu se méfie tout de même de l'absence des deux pièces maîtresses de l'attaque parisienne, même s'il compte en tirer profit. Écoutons l'attaquant des Reds, Anthony Martial.
On part pas favori, mais après c'est sûr qu'avec leurs joueurs absents, c'est bénéfique pour nous. Mais après, on sait qu'ils ont des grands joueurs derrière. Donc voilà, ça va être un très beau match et j'espère qu'on va gagner.
Dans l'autre rencontre moins prestigieuse sur le papier en tout cas, l'AS Rome Rome reçoit Porto au stade olympique. En 4 confrontations, le club portugais n'a jamais perdu contre les Romains.
Merci Yacouba.
Avec vous, Eric Manilakidza et Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
À quelques jours de la présidentielle au Nigeria, la tension monte entre le PDP et le parti principal d'opposition de l'ancien vice-président Atiku Abubakar et le parti au pouvoir APC. À l'origine, le candidat du parti de l'opposition aurait été empêché de tenir son meeting ce week-end sur une place publique à Abuja, la capitale fédérale. L'opposition accuse le parti au pouvoir d'être derrière cette interdiction. À Abuja, les détails avec Gilbert Tamba.
Plus de 80 millions d'électeurs inscrits nigérians se rendront sans doute aux urnes le 16 février pour élire le nouveau président ou reconduire le sortant Muhammadu Buhari à la tête du pays pour un second mandat. En prévision de ces élections, les appels à la tenue d'élections paisibles se multiplient par crainte de violences électorales avant et après le scrutin. Joy Adaonyesu est la présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté au Nigeria.
J'espère que le processus sera très inclusif et paisible. En plus, tout le monde, sans distinction de classe, de religion ou d'appartenance, doit avoir l'opportunité d'aller voter. Nous sommes venus pour réaffirmer et insister que les femmes veulent la paix.
Sur les quelques 200 millions d'habitants que compte le Nigeria aujourd'hui, plus de la moitié a moins de 30 ans. Une loi permet aux jeunes de se porter candidats aux élections. Hamza Laval est l'un des jeunes initiateurs de la dite loi.
Les jeunes doivent se considérer comme un instrument de paix pour assurer des élections paisibles. La jeunesse qui représente plus de 50% des électeurs inscrits doit respecter la loi. Ils doivent éviter la violence parce que lorsque les politiciens viennent et veulent les menacer ou leur donner de l'argent pour perpétrer des violences, qu'ils rejettent cela et qu'ils leur demandent d'aller chercher leurs enfants pour le faire.
La Commission électorale nationale indépendante affirme que tout est prêt pour le scrutin du 16 février, mais ne cache pas aussi ses inquiétudes pour une élection pacifique. Aliou Bello est le porte-parole de la CENI.
Ils doivent respecter les provisions de la loi. Ils doivent se présenter devant les bureaux de vote respectifs. En plus, se conformer aux instructions simples, légales et logiques. Être devant les bureaux entre les heures indiquées de 8h à 14h, durant lesquelles les accréditations seront menées continuellement. Par ailleurs, ceux qui seront dans les files d'attente après 14 heures seront autorisés à voter.
Toutes les activités des campagnes électorales se déroulent jusqu'ici normalement. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Gabon, un mois après la formation de son premier gouvernement de l'année, le président Ali Bongo n'a toujours pas convoqué un conseil des ministres. Par ailleurs, une nouvelle ministre nommée fin janvier va prêter serment demain devant le président Ali Bongo Ondimba à l'ambassade du Gabon au Maroc où il est en convalescence depuis fin novembre. Ses partisans espèrent le voir bientôt pour reprendre le contrôle de l'État. De Libreville, les précisions de Ismaël Obiangze.
Un mois après avoir reçu le serment de son gouvernement lors d'un bref séjour à Libreville le 15 janvier dernier, Ali Bongo Ondimba, ça fait toujours attendre au Gabon. Selon le politologue Arnaud Lilian Bilier, l'absence prolongée du chef de l'État pèse déjà sur le fonctionnement des institutions, dont la tenue régulière des conseils des ministres.
S'il n'y a pas de convocation de conseil des ministres, l'aspect politique est bloqué et l'aspect économique n'avance pas et l'aspect administratif aussi est bloqué. Et cela laisse présager que rien ne va d'ici-bas.
Le tout premier conseil des ministres de l'année renvoyé à une date ultérieure devait se tenir le 15 janvier dernier. Mais pour l'économiste Serge Pambo, la question de fond reste l'efficacité des institutions avec ou sans conseil des ministres.
De mon point de vue, les institutions ne fonctionnent pas seulement, en tout cas pour ce qui concerne le gouvernement, elles ne fonctionnent pas seulement par le biais des conseils des ministres. Pour le moment, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit qu'il faut nommer des gens. notamment dans les cabinets ministériels. Tant que les anciens cabinets ne sont pas révoqués, ils restent en place.
Le problème posé par une certaine opinion publique trouve déjà sa réponse dans la loi fondamentale. C'est ce que nous a confié Dr Telesphore Ondo, spécialiste du droit constitutionnel.
Dans le cas d'espèce, le contournement peut se faire assez facilement puisque c'est prévu par la Constitution de permettre donc au vice-président de pouvoir exercer donc la présidence du Conseil des ministres. À cette occasion-là, les décisions en suspens peuvent donc être prises par cette instance-là, dirigée par le vice-président de la République.
Alors qu'il poursuit sa convalescence au Maroc, la date du retour d'Ali Bongo Ondimba à Libreville reste un mystère, difficile à percer par le commun des Gabonais. Il reste pour beaucoup divisé sur sa capacité à diriger encore le pays. Ismaël Obionze, Libreville, pour la Voix de l'Amérique.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, la bataille entre républicains et démocrates sur la sécurité à la frontière avec le Mexique dure depuis un mois et aucun accord n'est en vue. Le gouvernement pourra à nouveau fermer si aucune solution n'est trouvée d'ici vendredi. Les négociations au Congrès sont quelque peu éclipsées, par les menaces du président Donald Trump de déclarer l'état d'urgence s'il n'obtient pas le financement d'un mur à la frontière sud. C'est un reportage de Michael Bowman avec le récit d'Abdourahmane Dia.
Là où les murs s'élèvent, les traversées illégales diminuent. Il sera construit.
C'est un président inflexible, toujours en désaccord avec Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre, tout aussi inébranlable.
Il n'y aura pas d'argent pour le mur dans cette loi.
Jusque-là, aucun accord n'a été trouvé par un comité regroupant des représentants des deux chambres, mais le président a toujours une carte à jouer. Il peut déclarer l'état d'urgence et se passer du Congrès. Kevin McCarthy est le chef de la minorité républicaine à la Chambre.
Je pense que personne ne remet en cause son autorité légale à déclarer l'état d'urgence.
Mais c'est une idée qui n'enchante pas les démocrates. Chuck Schumer est le chef de la minorité démocrate au Sénat.
C'est quand le président s'y mêle qu'il y a un problème. Mon conseil au président est que s'il ne veut pas d'un shutdown, s'il ne veut pas déclarer l'état d'urgence, pour lequel je me pose d'ailleurs, alors qu'il laisse en dehors des négociations.
Certains républicains aussi ne sont pas en faveur de l'état d'urgence. Mitch McConnell est le chef de la majorité au Sénat.
Les déclarations d'état d'urgence n'ont pas fait l'objet de contentieux par le passé. Je suis certain que celui-ci le sera.
Mais le président ne recule pas. Il a tweeté « Le mur sera construit d'une manière ou d'une autre ». Dans l'absolu, la question n'est pas de savoir si le président a l'autorité de déclarer l'état d'urgence ou pas, mais dans quel contexte. Paul Schiff Berman est professeur de droit à George Washington University.
Il y a des centaines d'endroits dans des statuts qui permettent au président de déclarer l'état d'urgence et dans différents contextes. Une vraie crise, comme un désastre naturel, une invasion ou quelque chose comme ça, où le président a besoin d'agir rapidement et qu'il n'y a pas assez de temps pour que le Congrès agisse.
Le débat sur les manquements à la sécurité à la frontière dure depuis des décennies. Ce lundi, le président Donald Trump se rend à El Paso, dans le Texas, à la frontière avec le Mexique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
page culture, les Grammy Awards ont mis l'accent cette année sur des femmes d'influence qui impactent la vie des gens. Plusieurs d'entre elles ont été récompensées lors de cette soirée pour leurs nombreuses actions en faveur de l'émancipation du monde, notamment des femmes. Plus de précisions avec Irénée Herman Ungbo.
Soirée des Grammy, Los Angeles, Californie. Apparition surprise de l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama. Elle était entourée de Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Jennifer Lopez et de l'animatrice de la soirée, Alicia Keys, pour donner le ton de cette grande soirée de récompense. Michelle Obama.
Whether we like country or rap or rock, music.
Que nous aimions la musique country, le rap ou le rock, la musique nous aide à partager notre dignité et nos peines, nos espoirs ainsi que nos joies. Cela nous permet de nous entendre. La musique nous montre l'importance de tout cela. Chaque histoire dans chaque voix, chaque note dans chaque chanson. N'est-ce pas, mesdames ?
Une nuit essentiellement consacrée aux femmes d'influence comme Cardi B, sacré meilleur album rap. Elle est la première femme à recevoir ce prix.
Je suis désolée, les nerfs sont si mauvais.
Camila Cabello donne du punch à la scène, mettant en vedette une kyrielle d'artistes tels que Ricky Martin, lisant un journal qui portait un titre captivant, « Ne construisez pas de mur ». Lady Gaga reçoit 3 Grammy avant une brillante interprétation de sa chanson en compétition intitulée « Shallow ». Et Alicia Keys vient imprimer sa touche à la soirée, alternant son jeu entre 2 pianos. Mais le temps fort de la soirée, c'était cet artiste de la musique country, Casey Musgrave, qui a remporté 3 trophées, dont celui du meilleur album de l'année. La soirée a été aussi agrémentée par ce duo féminin, composé de l'incomparable Dolly Parton et sa filleule Miley Cyrus, avant que d'autres icônes de la musique ne les rejoignent sur scène. La virtuose Diana Ross a été introduite par la suite par son petit-fils adoré de 9 ans.
Welcome, my grandmommy, Diana Ross.
Yolanda Adams, Fantasia et Andrade ont rendu un vibrant hommage à la reine de la soul, Aretha Franklin, avec cette nouvelle version du titre Natural Woman.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Josèle Morissin, à la présentation Morgane Guériec et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à tous. À demain. Chaque jour est une vie.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.